Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, le procès dit de Bobigny, plus précisément celui de Marie-Claire, accusée d'avoir avorté, et de sa mère, accusée de l'avoir aidée. C'est un temps où l'avortement est un délit. C'est au lendemain de mai 68 que dans le monde, mais aussi en France, naissent tout de même les mouvements de libération de la femme. D'abord une poignée, elles sont très vite des milliers, puis des millions à se rassembler, militer, revendiquer de nouveaux droits et libertés au sein de la société. Lors des meetings et débats, on commence à parler librement du corps, de la sexualité, de la maîtrise du temps et aussi de l'avortement. C'est notamment grâce à ces militantes que ce tabou devient débat. Évolution dont pourtant ces messieurs, largement majoritaires sous les ordres de la République, refusent ne serait-ce qu'évoquer. C'est à Bobigny, durant ce procès, que l'histoire va changer de cap. En cet automne 1972, avocats, témoins, accusés vont mettre en lumière ce drame social que constitue l'enfant non choisi et non désiré qui frappe chaque année entre 500 000 et 1 million de femmes. C'est ce procès qui va ouvrir la voie à l'une des plus grandes conquêtes de la femme, autrement dit un enfant, quand je veux et si je veux. Pour en parler en seconde partie, nous recevons Claude Servan-Schreiber, journaliste, écrivaine, militante féministe. Elle fut témoin lors du procès de Bobigny. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupuy-Henquin et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson.
Fabrice Drouel, Affaire sensible. Sur France Inter.
Marie-Claire, vous aviez quel âge lorsque vous êtes aperçue que vous étiez enceinte?
J'avais 16 ans.
D'accord. À qui en avez-vous parlé en premier?
Au garçon d'abord, et puis ensuite à ma mère.
Comment ça s'est passé avec le garçon?
Quand je lui ai dit, il s'en fichait complètement. Et puis, il dirait que ça serait pas lui. Puis, c'était même pas mon fleur ni mon petit ami. Puis, vous savez, dans les conditions que ça s'est passé, il m'a forcé quand même à lui céder et puis m'a même brutalisé. Il m'a donné des coups, oui.
Mais ce garçon, vous lui avez dit que vous vouliez vous faire avorter?
Ah oui, je lui en ai parlé et il a pris peur et je crois que c'est lui qui m'a dénoncé.
Vous en avez parlé à votre mère?
Oui. Et j'ai dit que je voulais absolument pas garder un enfant d'un voyou et puis... C'était pas la peine, j'avais pas de situation, je venais de quitter l'école, j'étais pas préparée à avoir un enfant, que je voulais pas être dans la même condition que maman l'a été quand on nous a élevés toutes les trois. Alors j'ai donc décidé qu'il faudrait que je me fasse avorter.
Et votre mère a compris?
Voilà.
Elle vous a aidé?
Ma mère m'a aidé comme elle a pu.
En France, au début des années 70, des centaines de milliers de femmes risquent leur vie pour leur liberté. Marie-Claire Chevalier est l'une d'entre elles. Elle a 16 ans, effectivement, quand un garçon auquel elle pensait pouvoir faire confiance l'invite à écouter des disques chez lui. Seule avec elle, il la viole. Quand elle rentre chez elle, elle ne dit rien, se tait, garde en elle ce drame en espérant l'oublier. Mais son corps, blessé, souillé, lui aussi a une mémoire. Quelques semaines plus tard, la catastrophe arrive, car dans ces conditions, c'en est une. Marie-Claire tombe enceinte, le verbe tomber prenant là tout son sens. Marie-Claire prévient alors le jeune homme qui la repousse, puis elle décide de se confier à sa mère, Michel. Elle n'a pas le choix, elle ne veut et elle ne peut garder ce futur enfant. Sa mère accepte, puis se met en quête d'une faiseuse d'ange, comme on disait alors, qui moyennant finance aidera sa fille à avorter. Ce sera une secrétaire dactylo qui jouera ce rôle à l'aide d'une gaine de fil électrique. Marie-Claire, tout comme sa mère, attend que son corps rejette l'embryon. Mais un soir, elle chute en pleine nuit chez elle suite à une hémorragie. À la clinique, Marie-Claire est sauvée grâce à un curetage. À l'époque, il faut vraiment que la mort rôde pour que l'institution médicale accepte de sauver celles qui ont tenté d'avorter. Les jours et les semaines passent, mère et fille se pensent libérées de ce poids. Mais un soir, des policiers sonnent dans l'appartement HLM de la famille. Marie-Claire et sa mère ont été dénoncées. Elles devront répondre de leur acte devant la justice. Depuis 1920, avorter est un crime qu'on condamne avec plus ou moins de fermeté. Sous Vichy, la législation accentue la répression qui peut aller jusqu'à la peine de mort. Et c'est ce qui arrive un jour de juillet 43 à Marie-Louise Giraud, guillotinée au petit matin dans la cour de la prison de la Petite Roquette à Paris. On lui reprochait d'avoir enlevé une future vie. On lui enlève la sienne, qui, elle, était réelle. Fille d'une famille modeste, originaire de Cherbourg, Marie-Louise avait un jour rendu service à une voisine, puis avait continué ses bonnes œuvres pour 26 autres femmes. La police en fut informée, la justice l'a condamnée, pour l'exemple, à la peine maximale. Au lendemain de la guerre, la mort n'est plus demandée par les juges, mais l'avortement est toujours condamné d'une peine qui, selon l'article 317 du Code, peut aller de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Si la loi est de moins en moins appliquée, passant de 5251 condamnations en 1946 à 340 en 1970, ce nombre remonte pour la première fois en 1971 et atteint les 518. Comme si le progrès faisait marche arrière, comme si l'histoire rebroussait chemin. Au lendemain de mai 68, sous la présidence de Georges Pompidou, avorteuses et avortés sont les accusés d'une société qui vit sous la coupe encore exclusive des hommes et, circonstance aggravante, assujettie à l'Église, encore influente sur les bancs des députés, sénateurs, ministres et médecins. C'est oublier ou faire semblant de savoir que l'avortement clandestin n'est pas un cas isolé, mais un fait social qui touche des centaines de milliers de femmes cherchant chaque année une solution, en France ou à l'étranger, pour interrompre des grossesses non désirées. Choisir, voilà le cœur du problème. Devenir mère est pour l'heure une succession de coïncidences, voire une volonté du ciel ou de la nature dont on ne peut en aucun cas interrompre le déroulement. Certes, en décembre 67, un député gaulliste, Lucien Neuwirth, avait ouvert une brèche en faisant voter une loi sur la régulation des naissances permettant l'accès à la contraception, mais sous certaines conditions et sans aucune campagne de publicité. Au départ, de Gaulle aurait dit à Neuwirth « Je ne vais pas livrer la France à la bagatelle ». Et puis, tant Yvonne n'aurait pas apprécié. Dans un accès de lucidité et de pragmatisme, le général avait accepté toutefois le principe d'un droit à la contraception encadré. D'ailleurs, les premiers décrets d'application n'interviennent qu'en 1969, 2 ans après le vote de la loi, et se frottent ensuite à la question de la production et de la commercialisation des produits contraceptifs, dont l'accès est encore un luxe offert à une partie de la population bourgeoise et éduquée. Les Marie-Claire et filles des classes populaires, elles, sont condamnées à se débrouiller comme elles le peuvent. Alors, quand obtiendront-elles la liberté de choisir? Quand la loi protégera-t-elle les femmes de toute classe au lieu de les réprimer?
Pourquoi est-ce que vous ne viendriez pas demain matin? J'ai un lit pour vous, soit vous serez opéré demain après-midi vers 2h, donc vous serez de retour à Paris le lundi. Si vous preniez un billet d'avion, par exemple, sur le vol Air France 804, le chauffeur vous prendrait en charge dès votre arrivée à la sortie de la douane. Il aura d'abord votre nom écrit sur une carte de papier. Vous n'avez pas à aller à un guichet d'information ou à attendre dans la salle d'attente ou quoi que ce soit. Il vous prendra en charge dès votre sortie de la douane.
Combien je dois payer?
Ah oui, ça, écoutez, votre prise en charge, ça vous coûtera 2350 francs.
Pour avorter, partir à l'étranger reste le chemin le plus court et le moins dangereux en tout cas, mais aussi le plus onéreux. En Suisse, dès 1942, l'interruption de grossesse est autorisée si la santé de la mère est considérée en danger. Au Royaume-Uni, il faut attendre l'année 1967 pour que soit autorisé l'avortement, 8 ans avant la France, soit dit au passage. Il peut être pratiqué dans les 28 premières semaines de la grossesse si 2 médecins attestent que la femme est mise en péril mental ou physique ou que le futur enfant présente des malformations physiques ou mentales. Grâce à cette législation, des femmes décident de se rendre dans ces pays pour interrompre leur grossesse dans un cadre médical, donc sécurisé. Mais seules les filles de bonne famille, encore une fois, ou les plus débrouillardes, rassemblent la somme demandée, puis s'en vont un vendredi, rentrent pour reprendre le chemin du travail ou des cours le lundi. Pour les autres, c'est sous le manteau, entre femmes, qu'on se redonne les numéros des faiseuses d'anges, infirmières, médecins qui aident en France les femmes à avorter. Cintres, gaines de fil électrique, aiguilles à tricoter, algues, eau de javel chaude. Chacun a sa méthode pour déclencher la fausse couche avec les risques importants de lésions qu'encourent ces femmes. Marie-Claire, elle, n'a pas la possibilité de partir à l'étranger. Sa mère éduque seule ses 3 filles avec un salaire de 1500 francs qu'elle gagne à la RATP. Le gynécologue, qui confirme la grossesse de Marie-Claire, lui propose de la faire avorter pour la somme de 4000 francs, presque 3 mois de salaire. N'ayant pas les moyens, c'est auprès d'une collègue et voisine avec qui elle prend les transports en commun chaque jour qu'elle confie son malheur et celui de sa fille. Pourtant catholique et pratiquante, mais avant tout humaine, cette collègue, Lucette Boucher, accepte de l'aider. C'est elle qui l'a mis en contact avec Madame Sucé, une secrétaire dactylo, qui pour la somme de 1200 francs accepte d'aider Marie-Claire à avorter. Mais comme pour beaucoup de ses congénères malheureuses, après une hémorragie, c'est à l'hôpital que Marie-Claire avorte. Comme elle en est fait chaque jour, des femmes arrivent désespérées dans les hôpitaux et cliniques entre la vie et la mort. L'hôpital est la dernière étape des avortements clandestins. Et c'est dans l'un d'entre eux qu'une journaliste du 20h de l'ORTF débute son reportage sur l'avortement un jour de décembre 1970. Après avoir écouté les médecins, elle interroge deux femmes. Visages cachés comme des criminels, elles avouent courageusement avoir avorté.
Madame, vous êtes fait avorter il y a combien de temps ?
Je me suis fait avorter au début de l'année dernière.
Dans quel état moral étiez-vous ?
Eh bien, j'étais déprimée. Ça n'est pas du tout agréable de se faire avorter. Mais surtout aussi déprimée parce que je sentais que je faisais quelque chose d'illégal.
Vous aviez un sentiment de culpabilité ?
Vis-à-vis de la loi, oui, mais pas vis-à-vis de moi-même, évidemment.
J'ai avorté il y a un an et demi.
Quel âge aviez-vous ?
21 ans.
Avez-vous un sentiment de culpabilité ?
Oui, j'ai un sentiment de culpabilité envers moi-même. Parce qu'on n'a pas le droit de supprimer ce qu'on crée.
Vis-à-vis de la loi ?
Pas du tout.
Si c'était à refaire ?
Je recommencerai.
Il y a le fait social, mais aussi la question morale, philosophique, qui entoure ce débat. Alors, après les hommes de science, c'est vers les hommes d'église que la journaliste tend son micro. Parmi eux, cet abbé.
Je crois que la position de l'église catholique est très nette. Elle a été donnée par la hiérarchie, encore rappelée ces derniers temps. La vie d'un enfant, c'est la vie d'un être innocent, d'un être qu'on doit considérer comme humain, et par conséquent, dont on ne peut pas disposer.
La vie d'un enfant, mais la vie d'un embryon au tout premier jour, est-ce qu'elle pose le même problème ?
Il semble, ce n'est pas une certitude absolue, que l'animation, enfin ce qui fait l'être humain, est déjà complet dès le commencement. En tout cas, à supposer qu'il y ait un doute, il resterait un doute, à savoir qu'on peut se trouver en face d'un être humain, et que par conséquent, de supprimer, c'est supprimer un être humain. Au fond, c'est un infanticide, c'est un assassinat.
Quand l'embryon devient-il enfant ? Alors que la science s'interroge, doute ce qui est son honorable vocation, la religion, elle, exalte et accuse ces femmes d'infanticide au cours des messes, mais aussi auprès des députés et des élus qui ne se font pas prier pour prêter une oreille attentive. Pourtant, et ne leur en déplaise, dans la rue et dans les têtes, la révolution des corps et des mœurs est en gestation.
Quand je travaillais pour le gouvernement fédéral à Washington, j'étais bureaucrate comme les autres. Les hommes me regardaient toujours comme un objet sexuel.
En France, il faut attendre 1970 pour que le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, voie le jour avec un premier meeting à Vincennes et une première action médiatique sous l'Arc de Triomphe en août. En plein été, une poignée de ces militantes dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu où l'on peut lire « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Quelques mois plus tard, ce 5 avril 1971, certaines de ces inconnues célèbres sortent de l'ombre en publiant dans les pages du magazine Le Nouvel Observateur ce manifeste devenu si célèbre.
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
C'est Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, auteure de l'essai Le deuxième sexe, qui écrit ces lignes. À sa signature, 343 célébrités apposent la leur, comme Delphine Seyry, Catherine Deneuve, François Sagan, Marguerite Duras, Agnès Varda, Nadine Trintignant. Célèbres ou puissantes, aucune de ces femmes ne risque d'être poursuivie, alors elles acceptent, l'une après l'autre, de porter l'histoire de ces femmes avortées anonymes qui, dans la clandestinité, risquent leur vie. En quelques jours, le manifeste des 343, rebaptisé par Charlie Hebdo des 343 salopes, fait le tour du monde. Certains quotidiens reprennent même l'idée. C'est le cas en Allemagne avec le Stern, qui avec l'aide de Romy Schneider publie un appel similaire. Parmi ses signataires, il n'y a qu'une seule avocate qui avoue avoir enfreint la loi. Elle s'appelle Gisèle Halimi. Les Français l'ont découverte durant la guerre d'Algérie lors du procès de Djamila Boupacha en 1961, une militante indépendantiste dont elle a révélé lors du procès les actes de viol et de torture qu'elle a subis par les soldats français lors de sa détention. Au lendemain de la publication du manifeste, c'est avec cette avocate que Simone de Beauvoir fonde l'association Choisir, qui a pour objectif de lutter pour la diffusion de la contraception, demander l'avortement libre et défendre les femmes arrêtées et poursuivies pour interruption volontaire de grossesse. C'est quelques mois après la publication du manifeste que Marie-Claire avorte et qu'elle est poursuivie. Sans moyens ni avocat, Michel Chevalier, la mère de Marie-Claire, tente de se renseigner comme elle peut. Et c'est en cherchant des livres dans la bibliothèque du comité d'entreprise de la RATP qu'elle tombe sur l'ouvrage de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir, publié après le procès de Djamila Boupacha. Elle ne connaît ni Gisèle Halimi, ni les réseaux féministes, mais si cette avocate a déjà sauvé une femme, pourquoi pas sa fille? Un jour où elle ne travaillait pas, Michel Chevalier décide de se rendre seul chez Gisèle Halimi. La suite, c'est l'avocate qui la raconte dans le documentaire Le procès de Bobigny de Guy Beauchet.
C'était une femme, mais vraiment exemplaire, comme on en rêverait. On se dirait, c'est pas possible, c'est presque théorique une situation comme ça. Elle était courageuse, elle ne se donnait toute sa vie, c'était ses trois filles, elle ne s'occupait de ses trois filles, elle avait très peu de moyens, mais tout était clair comme le jour. Et elle est extrêmement, elle m'a semblé, Michel, comme ça, avec ça, elle avait un débit comme ça, mais tout ça, c'est pas juste, mais je vois pas pourquoi c'est toujours nous qui payons. Alors c'était peut-être sa formation politique, mais c'était, elle avait aussi des accents de femme. Et c'est là où je lui ai dit, écoutez, moi je veux bien vous défendre. Elle m'a dit, mais on n'a pas un sou, etc. Je lui ai dit, il n'est pas question d'argent.
Gisèle Halimi rencontre ensuite Marie-Claire. Elle l'écoute, note ses déclarations et puise dans ses mots la conviction que cette femme est victime, pas coupable. Alors Gisèle Halimi lui propose de la défendre, mais il faut médiatiser le procès, appeler à la barre des personnalités, faire de son cas un exemple pour pousser l'État à changer la loi. Après quelques jours de réflexion, Méréfi accepte le combat. Le 28 juin, par ordonnance du juge d'instruction, Marie-Claire, sa mère et les femmes qui l'ont aidé à avorter sont renvoyées devant le tribunal correctionnel. Deux jours avant l'ouverture des audiences, en octobre 1972, elles sont des centaines de femmes à défiler à l'opéra pour annoncer la tenue du procès et réclamer l'avortement libre et gratuit. Alors, la justice entendra-t-elle ces cris? Et surtout, quand les femmes seront-elles libres de décider?
Achetée, vendue, violée, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout.
Octobre 1972, tribunal pour enfants de Bobigny. Marie-Claire est la première à passer devant les juges. Selon la procédure appliquée aux mineurs, l'audience se déroule à huis clos. Devant le juge, la jeune femme âgée de 17 ans raconte une nouvelle fois son histoire, sa vie auprès de sa mère et de ses deux sœurs, le soir où ce garçon l'a violée, bien sûr, ses premières semaines de grossesse, puis son avortement, ses complications. À la barre, le corps un peu frêle, la voix parfois tremblante, Marie-Claire affirme ne rien regretter. Avorter était son choix. Si elle était allée au terme de sa grossesse, l'enfant aurait été à l'assistance. Et malheureux, dit-elle. À la fin de la journée, le tribunal lui donne raison. Marie-Claire est relaxée. Premier succès, premiers applaudissements, mais ce n'est pas encore gagné. C'est durant le second procès, celui des complices, que tout va se jouer, comme l'explique Gisèle Halimi.
déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Mais ça n'est qu'une étape. L'autre étape, c'est le 8 novembre prochain, devant le tribunal de Bobigny, devant lesquels vont comparaître sa mère et ses complices, et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins qui vont parler de la loi, qui ont accepté, comme le professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, monsieur Jean Rostand de l'Académie française, monsieur Rocard, député des Yvelines, monsieur Vallon, député de Paris, Simone de Beauvoir, présidente de l'association dont je suis moi-même secrétaire générale, l'association Choisir, qui se bat précisément pour la suppression de tous ces textes répressifs. Et là, je crois que le jugement du 8 novembre va être déterminant.
Novembre 1972, tribunal de grande instance de Bobigny. Aujourd'hui, sur le banc des accusés, quatre inculpés, toutes des femmes. Trois sont employées de métro, la quatrième est secrétaire d'actylo. Micheline Bambuc est la première auditionnée. C'est elle qui a aidé Marie-Claire à avorter. Secrétaire d'actylo, elle ne connaissait ni Michel, ni sa fille, mais elle a accepté de l'aider contre une somme d'argent. Mais ce n'est pas une profession ou un moyen de subvenir à ses besoins. Non, non, rien d'intéressé. Elle l'a fait, par compassion. Puis c'est la mère de Marie-Claire, Michel, qui doit répondre aux questions du président. Sans crainte, ni peur, elle raconte sa vie, celle d'une mère célibataire qui a connu les humiliations et les affronts liés à cette situation, les difficultés de vivre sur un simple salaire toujours moins élevé que celui d'un homme. Et ce soir, terrible, où sa fille lui a appris qu'elle était enceinte d'un jeune homme qui l'avait violée. Oh, bien sûr, elle aurait accepté de nourrir une bouche supplémentaire, accepté d'assumer ce malheur, mais Marie-Claire ne le voulait pas. À la question « Qui a pris la décision d'avorter ?», Michel répond simplement « Marie-Claire ». Regrette-t-elle de l'avoir aidée ? Elle ne regrette que le moyen, mais pour elle, il n'y en avait pas d'autre à disposition. Oui, elle aurait préféré agir dans de meilleures conditions, évidemment, mais elle n'en avait pas les moyens, c'est tout. Avoir le choix, voilà la question sous-jacente lors de chaque audition. Marie-Claire, comme sa mère, avait-elle le choix ? Les femmes ont-elles le choix de devenir mère ou non, d'arrêter une grossesse ou non ? C'est bien tout l'objet de la venue de personnalités du monde politique, médical, journalistique, appelées par Gisèle Halimi pour faire de ce procès, non pas celui de Marie-Claire, mais d'une loi et de ses conséquences sur la société. Gisèle Halimi a convaincu un prix Nobel, deux députés, des comédiennes, un doyen de médecine et diverses personnalités reconnues et notables pour venir soutenir ces femmes qu'on accuse d'avoir avorté ou de ne pas avoir pu récolter assez d'argent pour le faire en dehors des frontières françaises. Le premier à passer est Michel Rocard, un jeune député des Yvelines, encore au PSU, qui prépare une proposition de loi à l'Assemblée sur la question de l'IVG. À la barre, il rappelle qu'il y a entre 500 000 et 1 million d'avortements clandestins par an, dont la plupart se déroulent dans des conditions dramatiques, source souvent d'infections et parfois de stérilité. Auditionnée également Simone If, la présidente du planning familial, qui effectue au quotidien un travail remarquable auprès des femmes en détresse, elle met en avant le manque d'accès, de moyens, d'information et d'éducation sur la question de la contraception, malgré la loi de 67. Simone de Beauvoir, pour sa part, replace cette loi dans l'histoire des femmes et de son oppression et parle de la situation à l'étranger, notamment de l'État de New York. Pour elle, la femme est libre de son corps, elle peut choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant et personne ne peut intervenir. Ce sont des hommes de science qui font basculer le procès dans l'audition de Paul Billiez, doyen des facultés de médecine, professeur de clinique médicale. Catholique, pratiquant, père de 6 enfants, il accepte ce jour-là d'être aux côtés de Marie-Claire. Et il avoue avoir déjà aidé une femme à avorter. Devant les jurés et les témoins, il se remémore ces années où il était externe à Ambroise-Paré au début des années 30. Il n'a pas oublié le visage d'ouvrière de Renault qui donnait 2 mois de salaire pour des avortements clandestins réalisés à la hâte, sans ménagement et qui se finissaient à l'hôpital sans anesthésie car le patron des chirurgiens voulait qu'elle se souvienne de leurs gestes. Pour lui, le problème n'est pas judiciaire ni médical car des solutions existent pour réaliser des avortements sans risque, mais le problème est législatif. À la question du président, auriez-vous aidé Marie-Claire ? Le professeur répond oui, comme il le répète à la sortie de l'audience, au micro de France Inter.
Si Marie-Claire et sa mère étaient venues me trouver, je les aurais aidées. Et dans les autres cas d'avortement ?
Dans les autres cas, le problème est tout à fait différent. Il y a des avortements thérapeutiques. Il y a des avortements qui sont liés à des problèmes psychologiques graves. Mais tout cela nécessite naturellement une très grande maturation avant de sortir une loi. C'est ce que pensent les gens qui actuellement s'occupent de ces problèmes.
Un autre professeur a pris également la parole ce jour-là, Jacques Monod, professeur au Collège de France, prix Nobel de physiologie et de médecine. Il a rencontré Marie-Claire et sa mère avant le procès. Il a même remis un chèque de 3000 francs pour financer l'avortement. L'aurait-il aidé à avorter ? Oui, oui, sans aucun doute. Puis les questions s'orientent sur le plan scientifique et notamment sur les débats autour du fœtus. S'agit-il d'un individu ? Le prix Nobel répond avec pédagogie et tact à la question du président. Il cite les derniers travaux, il lit la question de l'individu et de la conscience à la formation d'une activité du système nerveux central. Bien. Mais à partir de combien de semaines ce système est-il formé ? Pas avant le quatrième ou le cinquième mois, selon le professeur. Cette question est évidemment centrale, car avant tout morale. Et c'est un débat d'essence philosophique qui traverse alors le pays. Durant ces années de débats et de luttes, alors que les slogans et les revendications des mouvements féministes progressent, ces faits de balancier bien connus, d'autres mouvements, plutôt réactionnaires, eux, voient le jour. C'est ainsi qu'en 1971, après le manifeste, la première association anti-avortement Laissez-les vivre participe au débat, comme c'est le cas dans cet extrait d'une émission de France Inter diffusée durant le procès de Bobigny.
Avorter, c'est absolument tuer un être humain. Il y a là une régression. Et en particulier également, vous voyez, quel que soit le motif, aujourd'hui on a beaucoup parlé des enfants handicapés, dans la mesure où on peut le diagnostiquer, c'est d'ailleurs très faible à part les mongoliens, c'est pratiquement impossible avant la naissance. Eh bien j'estime justement qu'une société traditionnelle qui respectait l'idiot du village était une société civilisée, alors que notre société justement de productivité qui n'a fait pas la place à ceux qui ont ainsi des difficultés, est véritablement une société sauvage. Mais à partir du moment où vous voulez préciser une limite, eh bien, on va immédiatement vers une société qui est une société de type nazi.
Pourtant, selon les sondages, de plus en plus de Françaises et de Français sont majoritairement favorables à une nouvelle loi sur l'avortement. Seules les conditions à son accès divergent. Alors, les juges de Bobigny participeront-ils ou non à ce changement ? À la fin de sa plaidoirie, c'est eux que Gisèle Halimi interpelle. Et elle leur dit « Quand une opinion publique a fait savoir qu'elle n'accepterait plus ces procès d'un autre âge, il vous faut, messieurs, prendre vos responsabilités. C'est votre heure, c'est votre tour. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même ? Et elle conclut, théâtrale et utilement théâtrale, « Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. » Le 22 novembre 1972, le tribunal correctionnel de Bobigny lui donne raison. Les deux collègues de la mère sont relaxés. Michel Chevalier, elle, est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis et l'avorteuse à un an de prison avec sursis. À la sortie du procès, devant micros et caméras, la mère de Marie-Claire exprime sa joie, comme Gisèle Halimi, qui parle d'une décision historique.
Vous pensiez-vous être condamnée ou pas ?
J'espérais être laxée, mais enfin, j'avais quand même très peur d'être condamnée. Ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. Les juges ont enfin pris leurs responsabilités. Ils ont pris connaissance des lois, que c'était plus applicable.
Madame Chevalier, c'est presque la relaxe.
Oui, on a mené un grand pas, c'est sûr.
Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez ?
Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les femmes.
Ce jugement, ce jugement est quand même un pas irréversible. C'est un pas irréversible pour deux raisons. D'abord parce que, je vous le dis, il a exprimé le désarroi de tous les juges devant ce problème. C'est clair, les attendus sont contradictoires. Il n'y avait pas, je le répète, de raison de faire des poids et des mesures. Et c'est un pas parce que le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible.
Malgré la victoire médiatique et judiciaire, c'est auprès des députés et sénateurs qu'il faut désormais mener la bataille. Le 9 janvier 1973, Georges Pompidou affirme qu'un débat sera ouvert sur la question de la contraception et de l'avortement. C'est déjà ça. En attendant les débats à l'Assemblée, c'est dans la presse que les controverses se poursuivent. En février, un nouveau manifeste est publié, signé par 331 médecins qui s'accusent publiquement d'avoir pratiqué l'avortement. Chaque camp est de nouveau appelé à la barre médiatique pour exprimer ses réticences et ses revendications autour d'un futur projet de loi. 2 ans après le verdict de Bobigny et l'élection d'un nouveau président, le 22 novembre 1974, la ministre de la Santé, Simone Veil, présente une loi sur l'interruption de grossesse. Après de longues et parfois violentes interventions, la loi est adoptée puis promulguée le 17 janvier 1975. Désormais, l'avortement n'est plus un délit. Toutes les Marie Claire et toutes les autres femmes sont libres de choisir, libres de leur corps, libres d'aimer et de vivre pleinement leur sexualité quand elles le désirent.
Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, pour toi la vie est belle, mais je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais pucelle. Ma mère était pas pour,
non.
Mon frère était pas pour,
non.
Mon père est décédé, mais il n'aurait pas approuvé.
Ça,
pourtant je l'ai gardé, je n'ai pas avorté, car comme tu le dis, c'est si beau de donner la vie. Aujourd'hui, j'ai quitté le lycée, mais moi c'est mon mec à moi qui m'a lourdé. Comme Aurélie, je suis seule dans la vie. Il paraît que c'est les autres qui n'ont rien compris. Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, pour toi la vie est belle, mais je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais pucelle. J'ai trouvé un boulot à la pêche au bulot. J'ai les deux pieds dans l'eau et je suis payée au kilo. Ce travail éphémère, maintenant que je suis mère, me rend un peu amère.
C'est sans doute les fruits de mer.
Aujourd'hui, je suis pas ton bolos, mais tu trouves pas que je ressemble à un cassos? Comme Aurélie, je t'écoute jour et nuit, en surfant sur colonel.com et sur Provis.
Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, tu me l'as fait à l'envers. Toi tu ramasses l'oseille et moi je me retrouve le cul par terre.
J'ai même pas le RMI. Alors maintenant mon héros, tu me files tes euros.
Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, pour toi la vie est belle, mais je ne suis plus celle que j'étais quand j'étais pucelle. Colonel, j'ai 16 ans et je suis devenue maman. Concernant mon enfant, j'ai suivi ton enseignement. Colonel, colonel, tu me l'as fait à l'envers. Toi tu ramasses l'oseille et moi je me retrouve le cul par terre.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le procès de Bobigny avec notre invité Claude Servan-Schreiber. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, écrivain ou écrivaine. Vous dites écrivaine ou écrivain, vous ?
Écrivaine, absolument.
Bon. Et c'est après la publication d'un article dans Elle, publié en avril 72, que vous êtes appelé par Gisèle Halimi. Nous y reviendrons. Votre dernier livre s'appelle « Au pouvoir citoyenne », qui avait lancé le mouvement pour la parité. C'était en 1992, hein,
c'est cela.
Avec sur le fronton de vos idées, le triptyque « Liberté, égalité ». Parité.
Écrit avec Françoise Gaspard et Anne Le Gall.
Alors, l'histoire que nous avons racontée, c'est une histoire de l'après-mai 68, avec l'émergence en France et dans le monde des mouvements féministes. En 1970, vous êtes aux États-Unis, je crois. Là-bas aussi, l'avortement, la libéralisation de la contraception sont des sujets discutés, débattus. Vous avez pu assister à cela et vous vous êtes dit, peut-être, là, il faut aussi qu'en France, on importe cette liberté-là. Ça a été un éveil de conscience aux États-Unis, ce voyage ?
Ça s'est passé presque comme ça. En fait, j'étais journaliste depuis déjà plus de 10 ans et j'ai eu la chance de pouvoir passer un an à l'université de Stanford pour me perfectionner dans l'exercice de ma profession. Et je suis donc arrivée là-bas, en Californie, en 1970, en pleine ébullition féministe. Il y avait des meetings, des réunions, des conférences absolument partout. C'était une déferlante sur les campus. Et ce que j'y ai découvert, c'était que tout d'un coup, les femmes se mettaient à porter un autre regard sur elles-mêmes, sur la vie qu'elles menaient, sur leurs aspirations, sur les limites qui étaient posées par la société à ces aspirations. J'y ai découvert des mots que je n'avais jamais entendus. Je les traduis en français, je les ai entendus en anglais, mais je les traduis en français. Sexisme, patriarcat. En France, on parlait de patriarche, mais on ne parlait jamais de patriarcat.
Comme la système.
Voilà, domination masculine. Et puis, à l'inverse, des mots pleins d'espoir qui étaient « liberté de procréation »,« notre corps nous appartient », etc. Donc, je rentre en France un an après. Après la sortie du manifeste des 343 dans l'Observateur, et je prends conscience de l'incroyable archaïsme de la société française.
Et je vous pose la question. Pourquoi cet archaïsme? Il était dû à quoi? Est-ce que le poids de l'Église était important? Probablement, mais ce n'est pas le seul. Quels sont les autres facteurs?
Non, je crois que le facteur central, parce que c'est une question éminemment politique, c'est l'obsession nataliste des pouvoirs publics français. Ça remonte très loin. Les premières lois interdisant la contraception remontent en France à 1881. Et les massacres de la Grande Guerre, qui faisait craindre une accélération de la dépopulation commencée en France depuis presque un siècle et demi, allait s'accélérer, devenir dramatique par rapport à nos voisins, par rapport à l'Allemagne notamment. Et donc la loi de 1920, non seulement aggrave tout ce qui concernait l'interdiction de la contraception, l'interdiction de la diffusion d'informations concernant la contraception, mais instaure l'interdiction total de l'avortement.
Donc obsession démocratique en cas de guerre
et en cas de guerre.
Démographique. Bien sûr, et dans la perspective d'une guerre notamment, il faut pouvoir produire des soldats. Bon, effectivement, il y a cette dimension politique
il y a ça, plus,
et historique.
Plus le poids de l'Église catholique.
Plus le poids de l'Église catholique. Et puis il y a le débat philosophique, d'ordre philosophique autour de la question, l'embryon est-il une personne, un individu? Elle est là aussi, la frontière entre ceux qui considèrent que l'avortement est un progrès et d'autres qui considèrent qu'en avortant, on tue une personne humaine. Elle est là.
En 1970-1971, le débat ne se pose pas du tout dans ces termes. Mmh. Ou plutôt, il n'y a qu'une partie qui s'exprime, l'Église catholique. La position de l'Église, c'est l'interdiction de l'avortement, bien entendu, mais l'interdiction de la contraception. Il y a une encyclique, je crois même deux papales, qui interdisent l'accès à la contraception pour les femmes catholiques, pour les couples catholiques. Donc, le seul discours que l'on entend, c'est celui-là. Et ce que va bouleverser l'apparition du mouvement des femmes sur la scène politique, c'est l'apparition d'une revendication emblématique. Et la revendication emblématique, c'est « notre corps nous appartient ».
Est-ce que le manifeste des 343 a été déterminant?
Il a été révélateur d'un... comment dire... d'une situation qui était devenue absolument intenable. Et qui était d'autant plus intenable qu'un premier pas avait été fait pour introduire la contraception en France avec la loi Neuwirth que vous avez citée tout à l'heure. En fait, il faut bien se rendre compte, et aujourd'hui, 40, 45 ans après, on a un petit peu du mal à imaginer cette situation, qu'à l'époque, des femmes qui se retrouvaient enceintes et qui estimaient ne pas être en état d'élever un enfant, d'accueillir un enfant, avaient le choix entre l'abandon, l'infanticide, il y en avait beaucoup.
Bien sûr.
On trouvait des cadavres de bébés dans les toilettes des collèges et des lycées, par exemple, dans les poubelles. La presse en faisait état. C'était quelque chose d'abominable. Ou l'avortement clandestin, dont le document a clairement expliqué de quoi il retournait. Ce qui veut dire qu'il y avait des centaines de milliers de femmes par an des centaines de milliers de femmes par an qui étaient confrontées à ce problème absolument affreux.
C'est ce que disait Simone Veil dans son discours.
Voilà, qui était la boucherie. La boucherie. Donc, quand le mouvement des femmes fait de la question de la liberté de procréation, c'est-à-dire la liberté de la contraception et la liberté de l'avortement, une revendication emblématique, le public comprend tout de suite.
Alors, il faut, pour qu'il y ait des grands mouvements de société, des ruptures, des progrès, il faut que ce soit incarné, hein, surtout dans la société de l'image. Et il y a eu plusieurs incarnations, bien sûr, Simone de Beauvoir, mais il y a eu surtout Gisèle Halimi. Pouvez-nous parler un peu de cette femme?
Gisèle Halimi est une avocate absolument remarquable de dynamisme, d'empathie pour les femmes, ça va de soi, mais aussi, je dirais, de sens politique.
Oui, ça doit être la préparation du procès,
voilà,
c'est clair.
De sens politique. Parce que ce qui a été très très important dans le procès de Bobigny, c'est qu'elle est arrivée à faire de ce procès, non pas le procès de Marie-Claire et de sa mère, mais le procès d'une loi.
Bien sûr.
Et toute la préparation du procès a montré, par son choix des témoins, qui n'a pas été très facile à faire accepter par un certain nombre de féministes militantes.
Et là, je vais vous couper. Et on prendra le discours après, pardon. Mais précisément parce qu'on va écouter ensemble une archive autour de la préparation du procès de la stratégie de Gisèle Halimi. Justement, on va écouter un extrait du documentaire de Guy Baucher sur le procès de Bobigny, produit par Bonne Compagnie, où, précisément, hein, ça fait écho ce que vous dites, l'avocate parle du refus de certaines femmes, de l'association Choisir, de faire intervenir des personnalités ou des gens connus. Écoutez.
J'avais l'accord des professeurs Monod, Jacob, Mies, et tout à coup, il y a eu une espèce de branca d'un côté, de femmes, qui ont dit « Ah, pas du tout, nous ne voulons pas d'hommes à notre procès. » Michel Chevalier est sorti en disant « Mais allez, je ne veux pas de vous à mon procès, c'est pas ça mon procès. » Elle était très lucide. « C'est pas pour vous que je me bats, c'est pas nous ça, c'est pas ça. » Et à ce moment-là, il y a eu une vraie révolte, une vraie pagaille, et c'était Simone de Beauvoir qui présidait. Et Simone de Beauvoir a dit, bah écoutez, puisque c'est comme ça, on va voter. Et nous, je dis, Michel Chevalier et les autres inculpés sont mis en minorité. Le mouvement qui l'emporte, c'était pas d'hommes, et même pas Simone de Beauvoir d'ailleurs, parce qu'elle ne voulait pas de femmes célèbres. Alors, Michel Chevalier s'est avancé, elle a dit, écoutez, je veux pas de vous à mon procès. Et puis elle se tourne vers moi, elle me dit, écoute, tu veux nous défendre ou pas? Avec Monod, avec... tu veux nous défendre? Et moi, je dis oui, je vous défends.
C'est pas un peu contre-productif de dire pas d'hommes? S'il y a des hommes qui soutiennent le combat des femmes, c'est formidable.
Oui, mais justement, moi j'étais sur la même position que Gisèle.
Ah, personnalité et des hommes, d'accord.
Tout à fait. Le souvenir que j'ai de cette réunion, comme dit Gisèle, c'était une bronca, c'était en fait un désordre absolument indescriptible. Un certain nombre de femmes ne voulaient pas d'hommes et surtout ne voulaient que témoignent que des femmes, entre guillemets, ordinaires. Mmh. Or, toute l'idée d'un procès, c'était de lui assurer la plus grande publicité possible. Et le choix des célébrités, ça n'était pas une pipolisation, comme on dirait,
non,
aujourd'hui, de cette affaire. Non,
c'était
de prendre des célébrités, si je peux dire, mais compétentes, qui avaient une compétence à ce sujet. Donc, deux professeurs de médecine prix Nobel, deux ou trois autres très, très, très grands médecins. Enfin, la liste en a été donnée. Donc, c'est cela qui a marqué l'opinion. Et c'est à ce moment-là que le débat sur le début de la vie, la question que vous me posiez tout à l'heure, a commencé à se poser d'une manière complètement différente, avec deux positions et non plus une seule. La position de l'Église qui disait « la vie commence à la conception », et l'autre position d'un certain nombre de scientifiques éminents, eh bien, ce n'est pas vrai. La vie commence beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard. Alors, je voudrais confier à nos auditeurs que nous avons sollicité Marie-Claire pour qu'elle témoigne. Elle n'a pas souhaité le faire et bien sûr, nous respectons parfaitement. Sachez qu'elle est aujourd'hui encore aide-soignante, vit avec une grande fille, elle est grand-mère depuis trois ans. Je crois qu'elle nous écoute et nous avons bien conscience que son cas et elle-même d'ailleurs hein, ont fait évoluer la situation. Vous pouvez me parler de Marie-Claire et Michel, ces deux femmes?
Marie-Claire, je l'ai vue plusieurs fois, pas très souvent. C'était une jeune fille adorable, assez timide, mais pas du tout dépassée par ce qui lui arrivait. Elle comprenait tout à fait l'enjeu de la bataille qui se menait, l'enjeu pour toutes les femmes. Et quant à Michel Chevalier, alors là, c'était vraiment une femme remarquable, parce que elle avait une lucidité sur sa situation qui lui a permis de venir chercher du secours là où elle pouvait en trouver, d'affronter tous les dangers, parce qu'elle risquait la prison. Elle risquait la prison.
Ça paraît surréaliste aujourd'hui, hein. Pourtant c'est le cas.
Les femmes qui avaient fait ce qu'elle avait fait s'étaient retrouvées en prison, des milliers de femmes. Donc ça demandait beaucoup de courage.
En novembre 72, vous êtes témoin au procès. Quels sont vos souvenirs de cette journée de procès? Qu'est-ce qui vous reste?
Eh bien, en fait, j'ai été témoin au procès. Gisèle m'a demandé de témoigner au procès parce que, en avril de cette année, un an après le manifeste des 343 dans l'Observateur, j'avais moi-même publié un article dans le journal Elle, qui racontait pourquoi...
Qui s'appelait « Qui doit décider ?»
Non, c'était ça, non, c'est pas celui-là. C'était pas celui-là. Pourquoi j'ai dû choisir l'avortement.
D'accord.
Parce que j'avais été conduite à choisir l'avortement parce que j'avais contracté une maladie qui faisait que l'enfant à naître aurait eu de très graves malformations. Et cet article avait fait bien entendu du bruit, mais surtout, il avait montré une nouvelle fois l'injustice. Des femmes comme Michel Chevalier, elle n'était pas encore inculpée, mais elle allait l'être, mais bien d'autres avant elle l'avaient été, des femmes comme elle étaient inculpées, moi je n'étais pas inculpée. De même que les femmes qui avaient signé le manifeste des 343 n'avaient pas été inculpées. Donc après la publication de mon article, Gisèle Halimi m'a téléphoné en me demandant si je voulais travailler avec elle au sein de l'association Choisir, en prévision justement de procès à venir dont elle pensait qu'ils arriveraient. Voilà.
Alors comment c'est justement ça s'organise? Alors il y a trois temps, il y a avant le procès, il y a le procès, et puis après le procès, et jusqu'à la loi sur l'IVG. Comment s'organise le combat donc entre 1972 et on va dire l'automne 74, parce que ça y est, l'automne 74, il y a un projet de loi, donc on sait qu'il y a une majorité que ça va passer, hein, même si les débats sont durs. Il y a trois ans comme ça, enfin deux ans et demi, comment s'organise le combat?
Eh bien, d'abord, comme le disait Gisèle dans le document, nous pensions que le procès le plus important serait le second, celui de Michel Chevalier. En fait, rétrospectivement, je crois que le procès le plus important, ça a été le premier. C'est la relaxe de Marie-Claire. Parce que c'était la première fois qu'il y avait relaxe, alors que les faits étaient avérés. Donc, à partir de ce jour-là, on se trouvait dans une situation où la loi n'était plus applicable. La loi était caduque.
Oui.
Les femmes allaient être inculpées pour avoir avorté, comme Marie-Claire, elles seraient relaxées. Donc, il faut changer la loi. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Certains continuent de lui être extrêmement opposés, comme laisser-les vivre du professeur Lejeune. Mais l'ensemble de la classe politique voit bien qu'il faut faire quelque chose. Mais le climat général est celui d'accorder aux femmes, je dis bien accorder aux femmes, une liberté conditionnelle. D'accord pour l'avortement, mais à la condition de passer devant une commission de médecins, de passer devant un conseil d'experts, un certain nombre d'obstacles.
Une stratégie du découragement, quelque part?
Oui, mais surtout de rendre des choses... Oui, c'est ça,
C'est dissuasif, quoi. Bon.
Oui, et de faire perdre un temps précieux, parce qu'il y a quand même une limite dans le temps où l'avortement n'est plus possible.
Claude Servan-Schreiber, aujourd'hui, L'avortement, l'application de la loi, les progrès qui ont été faits entre 1975 et aujourd'hui 2016. Quel est le bilan que vous faites de cette loi et de son application en France?
Il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle soit appliquée. Je crois que c'est surtout ça. Aujourd'hui, je pense qu'elle l'est avec des variations selon les endroits, selon les moments. Mais par rapport aux premières années, où l'application a été extrêmement, extrêmement difficile. D'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que la loi a été votée, mais pour 5 ans seulement. Je crois que c'est un cas assez unique dans l'histoire, avec l'idée de ceux qui l'avaient votée, que dans 5 ans, on pourra revenir dessus.
C'était probatoire, quoi.
On n'est pas revenu dessus. On n'est pas revenu dessus.
Alors, autre combat des femmes, il porte un nom. En tout cas, c'est un moyen, c'est un levier, c'est la parité, la fameuse parité. Alors, pareil, là, bilan depuis 20 ans, depuis l'écriture de ce livre, l'application de la parité aujourd'hui en France. Quel bilan que vous en tirez?
Les lois sur la parité ont été votées par les parlementaires avec une arrière-pensée. C'était de faire en sorte qu'elle ne s'applique pas trop.
Décidément.
Ou en tout cas pas trop vite. Donc, la parité s'applique là où le scrutin le permet facilement. C'est-à-dire quand le scrutin est à la proportionnelle. Donc, il y a en gros autant de femmes que d'hommes. Ce qui s'applique en France à un certain nombre d'élections, des élections régionales, etc. Mais là où le bât blesse et continue de blesser, si je puis dire, c'est pour les assemblées, pour l'Assemblée et pour le Sénat, c'est-à-dire pour le pouvoir législatif, où la manière dont la loi a été votée, qui incite les partis à ne pas présenter de femmes moyennant un dédommagement qu'elle verse à l'État, laisse quand même beaucoup, beaucoup à désirer.
Et je rappelle quand même que l'un des plus grands patinages vis-à-vis du progrès qu'on connaît aujourd'hui, c'est le fait qu'à travail égal, beaucoup de femmes gagnent encore moins que les hommes. Et ça, à ce niveau-là, les progrès ont été vraiment très, très insuffisants. J'imagine que vous partagez...
Ça, c'est le chantier immense qui reste, celui-là. Et le partage des tâches au sein d'un foyer.
Bien sûr. Il me reste à vous remercier, Claude Servan-Schreiber, d'avoir accepté notre invitation et aussi d'avoir témoigné. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le procès de Bobigny, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.